Vous êtes avec SBS French.
Europa Voice, comme à chaque épisode et nouvelle et premier épisode de l'année 2026, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe et bonne année.
Bonne année à vous également. On est encore en janvier, on peut se le permettre, exactement. On a du pain sur la planche. On a beaucoup de choses à discuter puisqu'énormément de choses se sont passées ces derniers temps. Mais je voudrais qu'on prenne d'ailleurs la focale autour d'Emmanuel Macron et de la France et de Davos, bien entendu. On parlera en deuxième partie de cette Europa Voice de la potentielle interdiction des réseaux sociaux en France et l'exemple australien à suivre ou à ne pas suivre. On verra tout ça dans notre deuxième partie. Mais tout d'abord, on va parler donc de Davos, un sommet qui a lieu tous les ans, mais qui s'est conclu et avec pas mal de remous cette année à Davos.
C'était un Davos, effectivement, Christophe, qui était très attendu, pas tellement d'un point de vue business, hein, puisque rappelons-le, c'est un forum économique à la base, mais parce que il y a de l'agitation transatlantique, il y a l'épisode pas terminé du Groenland avec les velléités du président américain Donald Trump, et puis surtout, il y a eu ce discours d'Emmanuel Macron. Et cette fermeté affichée par le président de la République française, qui clairement a voulu montrer que entre les grandes puissances et les blocs monolithiques, la France, mais surtout l'Europe, l'Union européenne, a encore une place à jouer. Et puis donc ça évidemment, ça nous réjouit ici, nous, à Europa Voice.
Ouais, tout à fait. Alors Emmanuel Macron, on va passer la blague autour des lunettes de soleil, etc., parce que bon, ça a quand même fait pas mal de tours autour des réseaux, en homme fort, en homme de Top Gun, mais ce rôle qu'il joue là à Davos, c'est un peu le contre-pied de la toute puissance et la toute suprématie américaine que Donald Trump voudrait imposer à la planète entière.
Emmanuel Macron, il a dit quelque chose de très fort et de très puissant, c'est que il a appelé à refuser la loi du plus fort. Il a appelé à refuser les dérives autocratiques dont, en fait, peut-être moins de personnes attendaient les États-Unis sur ce plan-là. Et ça c'est extrêmement important, parce que on aurait pu s'attendre à ce que le discours d'Emmanuel Macron et ce refus de la loi du plus fort et ce refus des dérives autocratiques s'adresse à la Chine, s'adresse à la Russie, mais le destinataire, Christophe, principal du discours d'Emmanuel Macron, c'était le président américain. Et c'est en ça aussi que c'est un discours qui est pour moi extrêmement important. Il est important sur le fond, mais il est aussi important par rapport au destinataire principal à qui ce discours était adressé. Et puis Emmanuel Macron, il a aussi rappelé quelque chose d'important, c'est-à-dire que face aux velléités des grandes puissances, face à ce qui se passe au Groenland, face à ce qui se passe, et c'est lui-même qu'il a appelé cette guerre d'agression de la Russie en Ukraine, face aux velléités de la puissance chinoise, il a rappelé l'importance du droit international, et il a aussi rappelé les dangers d'un monde sans loi où le droit international est bafoué. Et ça, c'est quelque chose qui était pas forcément attendu et qui était très important pour le président français d'être capable d'être le porteur de ce message, encore une fois, parce que c'est le président français, mais aussi parce que on se demande encore et toujours où est la place de l'Europe entre ces vérités de superpuissance, États-Unis, Iran, Chine, Russie, etc.
Est-ce qu'on serait, et ça c'est une opinion que je vous demande, mais est-ce qu'on serait à un tournant de la politique internationale, soit en bien, soit en mal, on va le débattre, mais est-ce qu'on sentirait peut-être que, justement, avec ce point sur la table diplomatique de la part à la fois d'Emmanuel Macron, mais il faut dire qu'il y a aussi d'autres pays qui sont aussi, entre guillemets, rentrés dans la danse, hein, sur ce ton-là. Est-ce qu'on voit un changement de ton, justement, de la communauté internationale face à quelqu'un comme Donald Trump?
Moi, je dirais qu'il y a deux choses pour répondre à cette excellente question, Christophe. Peut-être deux choses qu'il faut noter. D'abord, la première chose, c'est que c'est pas la première fois que Donald Trump et un président américain menace avec une augmentation des droits de douane, des droits tarifaires. C'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé. Ce qui est pour moi un peu nouveau, c'est que c'est la première fois qu'un président européen, et en l'occurrence le président français, ne parle pas, je ne vais pas appeler ça du protectionnisme, mais met en miroir des menaces américaines, des potentielles menaces européenne pour défendre les intérêts de l'Union européenne. Et ça, c'est extrêmement nouveau. Vraiment le fait de les mettre en avant et vraiment d'aller sur ce terrain de ce qu'on appelle le level playing field, c'est-à-dire que si les États-Unis se comportent de la sorte, il n'y a pas de raison que l'Union européenne aussi ne mette pas des instruments de défense commerciale. Ça, c'est la première chose qui pour moi est assez nouvelle, c'est que l'Europe fasse ça face aux États-Unis. La deuxième chose aussi que je trouve extrêmement importante et intéressante d'un point de vue des relations internationales, c'est que on a souvent parlé d'une opposition entre deux puissances pendant la guerre froide, par exemple, entre deux blocs qui s'opposent, les États-Unis, l'URSS d'un côté. Après l'effondrement du bloc soviétique, on a parlé d'un monde multilatéral, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus une seule puissance, ou il n'y avait plus deux puissances en l'occurrence qui s'affrontaient, mais il y avait un tas de puissances et un tas de pays et d'organisations internationales, de groupements d'États politiques qui étaient dans la danse. Et là, on a l'impression qu'en fait, on est dans moi ce que je vais appeler un multilatéralisme, c'est-à-dire que on n'a plus de blocs, on n'a plus un ensemble de groupes de pays, mais on a presque deux groupes de pays qui eux-mêmes en fait font partie déjà d'ensembles multilatéraux. C'est-à-dire qu'on est encore dans un monde qui est peut-être encore plus fragmenté entre, j'allais dire, un axe qu'on appelle souvent l'axe du mal, la Chine, la Russie, l'Iran d'un côté. On a de l'autre côté les États-Unis qui agissent et qui prennent une direction qui est peut-être un peu nouvelle avec Donald Trump. Et puis, on a une espèce d'autre bloc multilatéral où on n'a pas encore réussi à trouver sa cohérence et qui pourrait être celui que mène l'Union européenne. Et pour moi, ça, c'est très important de voir comment cette nouvelle configuration va évoluer dans les prochaines semaines, le prochain mois, et quelle va être la place, encore une fois, nous, ce qui nous intéresse aussi ici à Europa Voice, quelle va être la place de l'Union européenne pour faire entendre sa voix face à cette surfragmentation des blocs multilatéraux.
Et l'impact aussi de la création de ce Board of Peace, ce groupement de pays qui, on va le dire ouvertement, peut en faire rire plus d'un quand on parle de paix. Et la volonté qu'a encore une fois Donald Trump d'aller à l'encontre des institutions qui sont en place depuis 70-80 ans.
Mais c'est ça, c'est un excellent élément dans ce rapport justement à ce monde fragmenté, c'est qu'on a d'un côté deux groupes multilatéraux. Enfin, un groupe de pays plus les États-Unis qui en fait semblent considérer que on est passé outre ces institutions internationales, hein, que ce soit l'Organisation des Nations Unies, que ce soit le traité de l'Atlantique Nord, enfin l'OTAN. On a l'impression que ces pays vont outre ces instances internationales. Et puis on a d'autres pays comme la France, comme les pays de l'Union européenne, qui évidemment continue à vouloir se référer et à respecter en fait ces institutions internationales. Et donc ça va être aussi un élément extrêmement important. Et puis on l'a vu, hein, dans les menaces de Donald Trump face au Danemark, mais aussi les menaces d'agression de la Russie sur des pays européens qui sont eux-mêmes membres de l'OTAN. C'est intéressant de voir que justement ces pays européens continue de s'appuyer sur ces instances et ces organisations internationales parce qu'elles leur servent aussi évidemment de garde-fous et de défense face à des velléités expansionnistes ou autoritaires pour reprendre et autocratiques pour reprendre les mots du président français.
Est-ce que le fait du cas du Groenland justement par rapport à l'Union européenne, enfin tombe sous la loi de l'Union européenne bien entendu, même s'ils ont des velléités d'indépendance ou ils ont eu des velléités d'indépendance pendant un petit moment, le fait est même que Donald Trump encore une fois et les États-Unis aient les yeux sur le Groenland, ça, c'est vraiment la ligne rouge qu'il faudra pas traverser pour les États-Unis, pour cette relation américano-européenne.
Alors, ce qu'il y a là aussi où je pense qu'il faut faire un petit peu attention, c'est de voir dans quel cadre, et c'est d'ailleurs d'anciens conseillers à la Maison-Blanche qui l'ont mentionné, est-ce que Donald Trump finalement ne fait pas preuve d'autant de proactivité avec le Groenland parce qu'il veut simplement obtenir des accords commerciaux favorables. Mais c'est dangereux, et puis c'est surtout ne pas respecter, j'allais dire, les gentlemen agreements avec vos partenaires historiques que sont l'Union européenne ou la France. Mais voilà, il faudra aussi voir. Il semble d'ailleurs que dans les jours post-Davos, on voit que les velléités et les invectives et même le vocabulaire de Donald Trump semble peut-être un peu moins agressif qu'il ne l'a été dans les jours menant à Davos. Et donc, in fine, ce que souhaite Donald Trump, c'est moins conquérir ou annexer le Groenland que d'obtenir des faveurs en termes d'accords commerciaux, par exemple, ou d'accès aux mers ou aux ressources. Donc, voilà. Mais encore une fois, ça montre que le respect et la collaboration et le fait que on ne se conduisait pas de manière, et encore une fois, je reprends les mots du président français, de manière autocratique, la loi du plus fort, hein, il l'a mentionné plusieurs fois, Emmanuel Macron, ça c'est un changement par contre. Que ce soit ce comportement-là qui soit mis en avant et personnifié par les États-Unis vis-à-vis de partenaires historiques comme la France et d'une certaine mesure l'Union européenne, ça c'est nouveau. Maintenant voilà, encore une fois, peut-être que ces vérités-là, elles sont un petit peu tempérées et qu'on se dirige simplement, mais c'est pas une raison, Christophe, c'est aussi ça qui est important, c'est que le problème, c'est que ça crée des précédents. C'est-à-dire que même si ça n'aboutit pas, cette annexion du Groenland, malheureusement, ça peut donner des idées à d'autres leaders qui sont d'ailleurs pas forcément en manque de velléité autocratique. Il y en a pas mal en ce moment.
Ouais, on peut penser bien entendu directement à la Chine et Taïwan. Hein. Ça c'est.
Et Taïwan. On peut penser à la Chine et Taïwan. On peut penser pour reprendre un peu une Madeleine de Proust europavossienne. On peut penser à l'Indo-Pacifique. Hein, on peut penser à toutes ces îles. On a bien vu ce qui s'était passé déjà entre la Chine et les îles Salomon. On peut penser à la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est ça aussi.
À l'île Maurice, il y a énormément de choses qui peuvent se passer et la géopolitique peut vraiment changer. Est-ce qu'il y a d'autres choses à retenir hors Trump et Union européenne de cette réunion à Davos, parce que c'était pas non plus le but de cette réunion, ça a monopolisé une grosse partie des débats. Est-ce qu'il y a autre chose à retenir?
Il y a la question, moi je trouve qu'il a été aussi un petit peu occulté, mais c'est la question quand même du Proche et du Moyen-Orient. Hein. C'est Gaza, la reconstruction. Où est-ce qu'on en est? Quel est le lead? En fait, ce qui est intéressant derrière cette question-là, c'est pas tellement la question de calendrier, c'est qui va être la puissance régionale leader de ça. Est-ce que ça va être sous l'égide des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite? Alors l'Iran, c'est un petit peu moins franchement. Est-ce que ça va être le Qatar, l'Égypte? Et donc ça aussi, c'est pour moi un point qui était abordé à Davos et qui va être intéressant. C'est finalement quel est l'agenda derrière l'initiative pour la paix et ce board pour la paix de Donald Trump qui semble se dessiner, parce que même s'il y a un refus pour l'instant des Européens, on voit qu'il essaye quand même de grappiller et de ramener des personnalités sur ce projet-là. Je pense notamment à l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Et donc ça, pour moi, c'est une question aussi importante. C'est est-ce que Donald Trump, qui quand même essaye de s'imposer en tant que faiseur de paix, alors ça peut faire sourire, mais c'est vraiment ce qu'il essaye de faire. Hein. En tout cas, on peut appeler ça faiseur de paix ou en tout cas fin de conflit. Est-ce que finalement le faire au Proche-Orient, c'est pas simplement la suite logique des accords de cessez-le-feu où il a eu un rôle extrêmement proactif? Et ça aussi pour moi c'était un point essentiel de Davos qui n'est pas lié à Trump, mais c'est le leadership. Quel est le leadership qui va venir pour être le médiateur entre les Israéliens et l'autorité palestinienne, ou en tout cas la nouvelle autorité politique dans les territoires palestiniens? Et donc ça aussi, ça va être important et intéressant de voir quelles vont être les prochaines démarches. Et puis peut-être un autre sujet aussi, Christophe, on en parlera sûrement dans un prochain épisode d'Europa Voice, mais finalement la question des tarifs et la question des menaces des tarifs sur les 200% de champagne, de vin, etc., ça fait sourire. Mais à côté de ça, on voit bien que les grands ensembles politiques aujourd'hui continuent à négocier et à mettre en place des accords de partenariat des tarifs. On vient d'apprendre celui entre l'Inde et l'Union européenne. On sait toujours, et je serais ravi qu'on en parle quand ça arrivera, on est toujours dans la négociation entre l'Union européenne et l'Australie pour un accord de libre-échange. Donc ça aussi, c'est un point important ces grands routes, ils permettent aussi aux puissances mondiales d'avancer sur leurs accords de libre-échange, puisque rappelons-le pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, si l'Union européenne est un marché libre, en fait, chaque pays doit négocier un accord de libre-échange quand il s'agit de faire du commerce à l'extérieur. Et donc, c'est un véritable casse-tête pour chaque ensemble politique ou pour chaque pays de devoir négocier. Et puis, on l'avait vu avec le Brexit, hein, une fois que le Royaume-Uni était en dehors de l'Europe, de négocier accord par accord pour qu'ils puissent faire du business ensemble, pour qu'il n'y ait plus de barrières tarifaires, libre circulation des marchandises, des hommes, etc.
Ouais, on a vu le processus avec le Mercosur, ça c'est certain. On fait une courte pause et on revient dans quelques instants pour la deuxième partie d'Europa Voice. On va parler des réseaux sociaux, interdiction ou pas en France. Et ça fait tache d'huile à peu près partout dans le monde, tout de suite après ça.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
De retour pour notre deuxième partie d'Europa Voice, toujours avec Nathanaël. Ça va toujours, Nathanaël ?
Ça va toujours, Christophe. Hein.
Allez, on va parler des réseaux sociaux maintenant dans cette deuxième partie. On sait que les réseaux sociaux ont été interdits au moins de 16 ans en Australie, première mondiale. On en a beaucoup, beaucoup parlé dans l'actualité, au sein de notre programme, enfin autour de différents barbecues, je suppose, pendant les fêtes de fin d'année. Est-ce que cette solution australienne pourrait faire tache d'huile à travers la planète ? On entend ici ou là des pays qui seraient sur le point d'y réfléchir. En France, on y réfléchit un peu plus on est passé à un autre stade que la réflexion. Ça a l'air de se profiler. Le président a demandé au gouvernement de faire quelque chose sur ce point de vue-là. Est-ce que c'est réellement possible en France et en Europe, j'allais dire, avec les lois européennes par rapport à la protection des données personnelles et à la protection de l'identité?
Si l'Australie, Christophe, peut le faire, pourquoi la France et l'Union européenne ne pourraient pas le faire? C'est la première question qu'on peut se poser, puisque là, on parle évidemment des dernières déclarations d'Emmanuel Macron, mais ça fait à peu près un an, depuis début décembre 2024, que l'Australie et les plateformes ont pour obligation d'empêcher la création de comptes ou leur utilisation par les moins de 16 ans sous peine d'amende. Donc c'est quelque chose, en fait, c'est une réalité déjà qui existe ici en Australie. Alors après, on pourra débattre de son efficacité, de son efficience, mais en tout cas, c'est, un cas d'école qui peut déjà être copié. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Christophe, c'est que si l'Australie, elle peut le faire avec des plateformes qui sont hébergées à l'étranger, puisque c'est le cas en Australie, on parle de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, etc. Si l'Australie peut le faire avec des plateformes hébergées à l'étranger, pareil, hein, il n'y a pas de raison que la France et l'Union européenne ne puissent pas le faire. Donc, j'allais dire, d'un point de vue du précédent, c'est quelque chose qui est envisageable. Maintenant, encore une fois, il va falloir parler de l'efficacité du dispositif, de son efficience, et puis voir quels sont les premiers enseignements qu'on peut tirer de l'exemple australien. Et je pense aussi, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a attendu finalement un peu plus d'un an, parce qu'on sait déjà, voilà, sans vraiment faire de spoiler, il y a eu un report. Par exemple, on sait en Australie qu'un nombre important de jeunes se sont reportés vers d'autres plateformes qui elles-mêmes ne sont pas prises en compte par cette interdiction-là. Tout n'est pas rose au pays de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, mais en tout cas, pour revenir à la question initiale, c'est quelque chose dont Emmanuel Macron peut s'inspirer en regardant ce qui se passe de l'autre côté du monde.
Alors moi, je ferais l'avocat du diable là-dessus. C'est vrai que beaucoup de jeunes se sont reportés sur d'autres plateformes, mais c'est des jeunes qui étaient déjà sur des plateformes et qui ont vu leur compte annulé. Ce que cela donne comme loi, ça donne un argument par rapport aux parents pour dire non, tu n'auras pas de réseaux sociaux et tu ne commenceras pas sur les réseaux sociaux. Et surtout, ça permet aux plus jeunes de pas se lancer sur les réseaux sociaux et ne pas forcément créer de compte sur de nouvelles plateformes. Mais ça, ma question était plus autour de des libertés individuelles. On sait que les lois informatiques et libertés en France sont beaucoup plus serrées déjà qu'elles peuvent l'être dans un pays comme l'Australie. Est-ce que un gouvernement peut naviguer avec ces lois et la collection des données et tout ce qui est autour des données digitales, c'est déjà très serré en Europe par rapport à ici.
Oui, mais c'est aussi d'un autre côté, n'oublions pas que dans les démocraties anglo-saxonnes, on est aussi le concept de liberté individuelle est aussi extrêmement important. Hein. Là, je parle en termes de philosophie politique. Donc, je crois que si les Européens arrivent à trouver la réponse technique à ça, ils devraient être capables de suivre l'exemple australien. La question est aussi…
Je prends juste l'exemple de la reconnaissance faciale, Nathanaël. La reconnaissance faciale, beaucoup plus limitée en Europe qu'elle l'est en Australie. Et la base de l'élément australien, c'est sur la reconnaissance faciale. Là, il y aura peut-être des modifications qui vont avoir un impact ailleurs pour pouvoir faire passer cette loi.
Alors, est-ce que la question, Christophe, c'est est-ce que, et c'est sûrement le cas, hein, l'Union européenne ou la France vont peut-être prendre d'autres… manière de limiter cet accès aux réseaux sociaux que la reconnaissance faciale, ça c'est un bon point. Mais je crois que il faut aussi regarder au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne aussi a quand même enclenché via des rapports et des études un mouvement pour dire qu'elle est prête à évoluer sur ces questions d'accès des réseaux sociaux au moins de 16 ans. Elle le dit aussi d'ailleurs, et ça c'est intéressant, c'est qu'on aurait pu s'attendre à une position européenne, mais en attendant justement que l'Union européenne elle-même ne prenne le leadership sur ces questions-là. Pour l'instant, ce qui se passe de plus en plus, Christophe, ce sont des initiatives nationales. Là, on a cité l'exemple français. Il y a eu la même chose au Danemark. Au Danemark, c'est aussi à peu près fin 2025, en octobre 2025, que le pays a annoncé un projet de loi pour interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. En Espagne, il y a un projet aussi qui est en cours d'examen. Donc en fait, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que effectivement, on va sûrement achoper sur les modalités pour faire pas tellement sur les modalités parce qu'on n'est pas d'accord avec le fond, mais vous l'avez dit, hein, sur les modalités pour faire respecter cette interdiction-là. La question de la collecte des données, la question de la reconnaissance faciale. Mais je crois vraiment, et ça c'est quelque chose de très fort, c'est-à-dire que s'il y a une volonté politique, on trouvera une manière de d'avoir les bonnes modalités pour que ça se passe bien. Et puis l'autre chose aussi, c'est que il y a une espèce dans ces projets-là, il y a une espèce de, j'allais dire, de calcul coût-avantage, c'est-à-dire que quels vont être les coûts. Et là, je parle encore d'un point de vue de philosophie politique, mais quels sont les coûts à absorber, à prendre en compte, à accepter pour la société par rapport aux avantages que ça procure. Et donc ça, c'est aussi une autre question qui va être débattue, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner d'une certaine façon ou pas pour que ce projet se mette en place. Moi, je crois simplement la chose qui pourrait faire que ce projet n'aille pas au bout, c'est les mesures d'efficacité. C'est-à-dire que c'est qu'on se rende compte que finalement, et c'est un peu les théories du free rider en économie, c'est-à-dire que on se rend compte que il y a un contournement qui est fait avec ces lois et que ce qu'on pensait gagner, finalement, on le perd ailleurs. Et ça je pense que ça va être un grand travail pour les économistes, mais aussi pour les spécialistes des technologies, etc. C'est de voir, en fait, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on a interdit les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a un détournement vers d'autres plateformes? Pour moi, c'est ça vraiment. C'est sur quoi on va se baser pour dire que c'est une mesure efficace ou une mesure non efficace par rapport à l'accès des moins de 16 ans ou des moins de 15 ans aux réseaux sociaux.
Et est-ce qu'on peut avoir, vous pensez, une unanimité politique en France sur cette question-là, comme on a pu l'avoir en Australie? C'est une loi qui n'a pas vraiment été débattue dans le sens où tout le monde était d'accord. Est-ce que c'est possible, ça, sur une loi comme ça en France?
Je vais être un peu cash, Christophe, hein, mais on aime être cash à Europavax.
Ouais, ouais. Je vous dis que la réponse est non. Hein.
avec les élections municipales en mars, avec les élections présidentielles et législatives l'année prochaine, il fait peu de doute que ce projet de loi ou cette proposition de loi sera aussi utilisée à des fins politiques.
Surtout quand on sait à quel point un certain parti comme le Rassemblement National fédère sur les réseaux sociaux, y compris réseaux sociaux chinois, type TikTok, autour de la personnalité qui est comme Jordan Bardella, chez les jeunes.
Ouais. Exactement. Donc non, en fait, je pense que pour le coup, c'est aussi quelque chose qui va. Bah, c'est aussi quelque chose qui est plus facile d'obtenir en Australie, hein, si vous voulez. Il y a deux partis principaux. Si les deux partis s'entendent, le projet passe. En France, le paysage politique est un peu plus éclaté. Un peu plus compliqué, voilà, sans majorité réelle. Donc non, je pense que c'est non, clairement, ce sera utilisé comme un argument politique. Enfin, cette question-là, elle sera forcément politisée avec les échéances électorales de cette année, que ce soit les municipales ou présidentielles, législatives l'année prochaine.
Absolument. En tout cas, ce sera une belle affaire à suivre pour nous à Europa Voice. Merci Nathanaël.
Merci beaucoup Christophe.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.